France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, comme celui de Mozart, son nom est devenu synonyme de perfection, de maîtrise absolue, d'exemplarité, et ce, bien en dehors du seul milieu musical. On peut ainsi croiser des Paganini de la plomberie, de la bicyclette ou de la pizza. Né à une époque qui vit triompher la virtuosité instrumentale et qui inventa le récital, Niccolo Paganini fut, si ce n'est le premier, tout du moins le plus célèbre des violonistes. Comme son cadet, Liszt, qu'il rencontrera, Paganini a repoussé les limites de l'instrument au-delà de ce qui paraissait imaginable, comme s'il possédait un pouvoir évidemment diabolique, pour le plier à son caprice, à tel point que son physique efflanqué aidant, il passera pour une créature surnaturelle. Paganini, le violoniste du diable, est d'ailleurs le titre du livre que Lord Autriche, mon invité, vient de lui consacrer et que viennent de publier les éditions Talendier. De violon pour commencer cette émission sur Paganini, mais des variations sur un thème de Paganini, de Witold Lutosławski, par Martha Argerich et Nelson Frère, au piano, piano au pluriel. Bonjour Lord Autriche.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous êtes journaliste, vous avez fait des études de lettres et de musicologie, et vous pratiquez également le violon. Donc vous étiez la personne tout indiquée pour mener à bien ce travail. Quand on s'engage dans un tel projet, consacrer un livre à Paganini, quelle direction emprunte-t-on ? Est-ce qu'on a une idée derrière la tête ? Est-ce qu'on veut combattre des idées reçues ? Est-ce qu'on veut démontrer certaines choses ? Comment avez-vous travaillé en Autriche ?
Oui, il y avait plusieurs directions. D'abord d'aller sur les lieux fréquentés par Paganini lui-même, donc l'Italie, Gênes, essayer de retrouver ce qu'il restait de lui. Et puis oui, lire aussi la littérature qui existe déjà. Il y a peu de choses en français, mais il y en a beaucoup. Beaucoup en italien, et puis démêler le vrai du faux, parce que c'est vrai qu'on était à une époque au 19e siècle où la légende parfois a dépassé la réalité. Pour Paganini, on a raconté tout et n'importe quoi, il faut le dire, avec ce personnage qui fascinait, et les journaux racontaient des choses vraies mais aussi des choses fausses. Donc l'idée, c'était de démêler un peu tout ça, oui.
Et donc pour cela, effectivement, votre récit est d'ailleurs... C'est à la fois une biographie, mais il y a un côté aussi romanesque dans la narration, qui, je pense, est voulu. Et le sujet s'y prête, bien évidemment. On sent que vous avez effectivement, vous venez de le dire, emprunté les pas de Paganini depuis sa ville natale, donc à Gênes, donc où il voit le jour en 1782. Il meurt à Nice en 1840. Est-ce que il y avait chez ce jeune musicien, donc qui naît dans une famille vraiment très modeste. Le père pratique de la musique, la mandoline entre autres.
Mandoline, oui.
C'est ça, vraiment
en amateur.
Est-ce qu'il y a eu très tôt une volonté à la fois de quitter son milieu, mais une volonté aussi de conquête de la part de Paganini?
Complètement. Et oui. Le violon, d'ailleurs, est pour lui l'outil qui va lui permettre de conquérir l'Italie et même de voir au-delà. Très jeune, il a envie de se démarquer. Et très jeune, d'ailleurs, à 10-12 ans, il n'hésitera pas à dire à ses professeurs que la façon dont on lui dit de tenir l'archet ou le violon ne lui convient pas, qu'il y a quelque chose de... On peut faire beaucoup mieux, on peut faire plus pratique, on peut jouer mieux que ça, et il passera de professeur en professeur aussi en se disant qu'à un moment il n'a plus rien à apprendre à 15 ou 16 ans, et c'est vrai qu'il joue déjà très très bien du violon, et là il veut conquérir le monde même, hein, l'Europe, et surtout un public. Il va à la recherche du public, ça, c'est quelque chose qui le porte déjà dès l'enfance, oui.
Le cinquième des 24 caprices de Niccolo Paganini, sous l'archet de Thomas Zettmeyer, dans son premier enregistrement réalisé en 1992. Lors d'Autriche, on imagine que ce genre de numéro nécessite des années et des années de travail, vous qui pratiquez le violon. Je voudrais pas qu'on se perde trop dans la biographie, parce que il faut que les auditeurs se plongent dans votre livre pour connaître la vie assez romanesque quand même de Paganini, même si on y reviendra tout à l'heure. Vous qui connaissez cette musique et qui pratiquez le violon, quels ont été les apports de Paganini à la technique du violon? Est-ce qu'il y a un ou deux traits vraiment particuliers qu'il a apportés?
Absolument. Par exemple, le fait de faire des pizzicato avec la main gauche. Jusque-là, on les faisait avec la main qui tient l'archet. Oui, là, il les fait avec la main gauche. Ça, c'est vrai que c'est un apport de Paganini et c'est très difficile de cet apprentissage-là est difficile. Il mène ça à un point de difficulté assez impressionnant. Les harmoniques aussi, le fait d'avoir ce son très cristallin,
Faut expliquer peut-être pour les auditeurs qui sont pas violonistes.
En mettant plusieurs doigts sur le manche du violon, vous devez créer une note très très aiguë, un son assez cristallin, appuyer un doigt assez fort et puis un autre un peu moins fort, juste l'effleurer. Et si vous ne le mettez pas au millimètre près, la note ne sort pas. Et Paganini a fait ça parfois avec des dizaines d'harmoniques sur une petite pièce de 3 ou 4 minutes. Ça, c'est vraiment des caractéristiques de sa musique.
Oui. Alors, vous racontez dans votre livre, Lord d'Autriche, tout un tas d'exploits et d'acrobaties qu'il a pu faire, genre jouer avec une seule corde, j'en passe et des meilleurs. Est-ce que l'époque à laquelle il a évolué, c'est-à-dire le tout début du 19e siècle, est-ce que c'est une époque qui était de toute façon favorable à cette éclosion de la virtuosité? J'évoquais Liszt en introduction. C'est vrai que c'est l'époque où on voit le début de tous ces grands récitals qui attirent les foules, récitals de piano, de violon.
Oui, c'est vrai, et la personnalité du virtuose, c'est ça, de l'interprète qui voyage, qui donne des concerts, qui n'est pas forcément compositeur. Alors effectivement, Paganini l'est aussi, mais il est d'abord interprète et virtuose. Et c'est vrai que, j'allais dire, il est quand même précurseur en la matière, puisque derrière, quelques années plus tard, viendra Liszt, Schumann va aussi beaucoup vouloir s'inspirer de Paganini, il entendra Paganini en concert et voudra se consacrer à la musique. Après cela, il lâche ses études pour se consacrer à la musique après avoir entendu Paganini. Chopin aussi est bouleversé. Mmh. On est effectivement à une époque où les individus, les interprètes sont sur le devant de la scène, et à une époque aussi où on commence à faire du théâtre en musique. Et c'est ce que fait Paganini aussi quand il arrive sur scène. Quand il joue sur une seule corde, quand il casse les trois autres cordes pour montrer au public qu'il n'en reste plus qu'une, en montrant son violon comme un magicien montrerait qu'il n'y a pas de tour de magie, mais que voilà, la prouesse va arriver. C'est ça aussi Paganini, c'est la musique, mais c'est aussi tout le climat qu'il crée autour de cela, jusqu'à faire s'évanouir des personnes dans le public. Elisa Bonaparte, la sœur de Napoléon, va s'évanouir en entendant Paganini. On imagine qu'à une époque, c'est effectivement du jamais vu.
Ouais. Alors, sa carrière de virtuose le mène tout d'abord en Italie. C'est d'abord en Italie qu'établit s'établit sa réputation. Il voyage beaucoup dans son pays.
D'abord parce que il n'est pas extrêmement connu au départ, donc il va simplement à 150 km autour de Gênes, accompagné de son père, d'un mécène. Et puis il va voir que le succès commence à arriver. Là, il est recruté à la cour italienne d'Elisa Bonaparte, et puis à un moment, il en aura assez d'être aux ordres et aura vraiment envie d'indépendance. Et c'est là qu'effectivement il continue à travailler en Italie un certain temps d'ailleurs. Oui, c'est vraiment alors que sa carrière a bien démarré qu'il va conquérir le reste de l'Europe, parce que un référent autrichien viendra en Italie, va le repérer, puis l'invitera à Vienne, et puis ensuite Paris, et puis ensuite évidemment il y aura une succession, il fera toutes les capitales d'Europe. Oui. Mais c'est vrai qu'il reste un très long moment en Italie pour finalement acquérir une notoriété.
Mmh. Lors d'Autriche, vous avez parlé un peu de la mise en scène du concert à laquelle se soumettait et réalisait d'ailleurs même Paganini. Il y a aussi son physique, il faut en parler, qui y contribue.
C'est vrai, complètement, un physique assez étrange, un homme grand, très maigre, une figure cadavérique, c'est ce que rapportent aussi tous les journaux de l'époque, de longs cheveux noirs qui lui tombent sur le visage, des doigts très longs, assez élastiques, parce que on découvrira plus tard qu'il est atteint du syndrome de Marfan, qu'on ne nomme pas à l'époque ainsi, qu'on ne connaît pas. Mais tout ça participe,
c'est quoi,
effectivement.
Le syndrome de Marfan ?
C'est le fait d'avoir finalement les doigts d'une assez élastique, de pouvoir faire de grands écarts.
Donc c'est pratique alors.
Alors c'est pratique pour lui. Je sais que pour d'autres personnes, il peut y avoir des difficultés, mais lui n'est pas vraiment atteint par les difficultés. Alors ça participe aussi évidemment du mystère autour du personnage, mais c'est vrai qu'il n'est pas très beau, même pas beau du tout, Paganini. Il a un visage pas très avenant, mais il a un charisme fou. Il fascine complètement.
Salvatore Accardo à l'alto, Rocco Filippini au violoncelle et Carlos Bonnell à la guitare. C'était l'Adagio non tanto, extrait de la sérénade pour alto, violoncelle et guitare de Niccolo Paganini. L'or d'Autriche, cet extrait choisi pour plusieurs raisons. Rappelez que Paganini a composé beaucoup pour la guitare, instrument qu'il pratiquait, également pour l'alto, instrument qu'il pratiquait aussi. Harold en Italie de Berlioz, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis aussi qu'il était capable de composer une musique qui n'était pas seulement acrobatique.
Exactement, et c'est ce que j'adore aussi chez Paganini, c'est que derrière la virtuosité, il y a presque toujours des mélodies à couper le souffle, des mélodies fantastiques, presque parfois dignes de Mozart ou de Rossini. Enfin,
c'est l'époque du bel canto en plus.
Absolument, oui. C'est l'époque du bel canto, l'opéra que Paganini adore. Donc on peut imaginer, quand on entend le violon chanter, une voix à chanter complètement. Le parallèle est parfait pour ça. Et je trouve que la musique de Paganini, oui, est très souvent musicale aussi. Et c'est d'ailleurs ce que recherchent les jurys dans les concours de violon dans lesquels les pièces de Paganini sont incontournables, c'est de voir quels candidats réussiront à la fois être parfaits techniquement
et aller au-delà de la simple
virtuosité. Et faire surgir la musicalité folle et fascinante de Paganini.
Lors d'Autriche, on a évoqué le physique assez inquiétant de Paganini, mais aussi quelques mots sur sa santé vraiment extrêmement fragile pour quelqu'un qui passait sa vie à courir les concerts.
Oui, et ça l'a pénalisé aussi parce qu'il a dû s'arrêter très souvent pendant des mois, arrêter les concerts. Et il a une santé fragile dès son plus jeune âge, dès l'âge de 4-5 ans, une rougeole qui va mal tourner. Les médecins croiront même à l'époque qu'il est mort, ils seront prêts à l'enterrer. Puis finalement, il se réveillera de son coma. Bon, ça, c'était la première chose durant son jeune âge. Et puis ensuite, effectivement, il va avoir pas mal de problèmes, la tuberculose, la syphilis, sans doute un cancer de la gorge aussi. Il finira sa vie sans
pouvoir parler,
dire aucun mot.
Ouais.
Et oui, ça va lui poser pas mal de problèmes et les médecins vont se succéder. Il va avoir envie d'avoir énormément d'avis, donc il y a énormément de médecins qui vont se pencher sur son cas.
Ouais, apparemment, il était pas mal charcuté à vous dire.
Il était très charcuté. Il a perdu beaucoup de dents. On lui a arraché des dents. Il avait des cures. Faut se souvenir aussi que la médecine à l'époque est rudimentaire et on lui administre des cures d'opium, de mercure. C'est impressionnant ce qu'on a pu lui donner à l'époque.
Mais aussi de l'homéopathie, alors.
Et aussi l'homéopathie, oui. Alors, il rencontre Samuel Hahnemann, qui est considéré comme le père de l'homéopathie, qui vient s'installer en France. C'est un Allemand qui arrive en France. Et Paganini va le consulter comme d'autres artistes de l'époque. Hein. Balzac va aussi aller le voir. Il le verra trois fois. Hahnemann va lui donc administrer une sorte de petite formule avec différents extraits de fleurs, par exemple. Tout ça n'aura pas énormément d'effet sur lui, mais jusqu'à la fin, il croira que le remède qu'on lui administre sera le bon et pourra le sauver. C'est vrai qu'il a une confiance incroyable en les médecins qui s'occupent de lui et finalement il résistera assez bien parce que il était déjà mal en point jeune et il tiendra relativement longtemps. Thank you.
Extrait du 16e quatuor à cordes de Beethoven par le quatuor Paganini. Oui, très bien, il s'appelle Paganini, tout le monde est content. Mais il y a quand même derrière ce nom une raison. Lord Autriche, en fait, ce quatuor, l'enregistrement vient des années 50, à date des années 50, jouait sur des instruments qui ont appartenu à Paganini, parce qu'il faut rappeler qu'il possédait quand même une belle collection d'instruments.
Oui, tout à fait. Il a eu, à la fin de sa vie, plusieurs Stradivarius qui lui appartenaient, qu'il a achetés, violon, violoncelle, des Guarnerius, alto aussi, des Amati, parce que dans la dernière partie de sa vie, puis quand il ne pouvait plus faire de concerts parce qu'il était trop affaibli, il s'est mis à faire du commerce d'instruments et à acheter des instruments qu'il voyait en Italie, en France, à passer par des intermédiaires, à se réserver une belle collection. Et il est mort d'ailleurs avec ses instruments à Nice, à Marseille. Il avait une très belle collection d'instruments, et il pensait d'ailleurs faire encore pendant quelques années ce commerce. Il avait un goût très sûr à une époque où, par exemple, les violons baroques Amati n'étaient pas trop prisés. Eh bien, lui a misé là-dessus. Les Guarnerius aussi, hein, son instrument fameux. Il a joué presque toute sa vie avec un magnifique Guarnerius, le canon, baptisé le canon pour sa puissance, qui est aujourd'hui
exposé à Genève.
Exposé dans la
mairie. Vous commencez votre récit par ouais. Ça. Donc vous êtes allé le voir.
Je suis allé le voir. Il est exposé dans une salle comme un trophée, comme un bijou dans la mairie de Gênes. Splendide instrument qui est parfois joué aujourd'hui encore, mais il faut vraiment avoir un privilège immense pour pouvoir le jouer, parce qu'on veut surtout le préserver. Le luthier qui s'en occupe veut qu'il soit joué le moins possible pour pas abîmer non plus l'instrument, qui est l'instrument de Paganini, qui avait une sonorité fantastique. Et on voit encore dessus, sur le manche, les traces d'années de pratique. Ouais. Imaginez que Paganini a posé son menton là-dessus, a mis ses mains sur cet instrument. On voit aussi le boîtier de violon, la boîte qui est exposée. C'est un peu de Paganini, et c'est accessible à tout le monde, à la mairie de Gênes.
Ouais. Et un dernier mot pour conclure, Lord Autriche. Le violon du diable, mais cette figure diabolique, ça l'a suivi juste à la fin de ses jours, et même au-delà.
Au-delà.
La fin de ses jours, et plutôt son enterrement, est assez, assez incroyable.
Oui, complètement, parce que il jouait d'une façon tellement exceptionnelle qu'on a imaginé et qu'on disait que c'est le diable qui jouait, ou qu'il était le diable personnifié. Et à sa mort, pour cette raison, en partie, il n'aura pas de sépulture en terre chrétienne, et son fils Achille se battra pendant 30 ans pour qu'il soit enterré dans un cimetière dignement. Et pendant toute cette période, le corps de Paganini va voyager, va être caché jusqu'à ce qu'il obtienne cette sépulture. Mais c'est vrai que les années qui vont suivre seront aussi pleines de rebondissements et le pauvre Paganini devra attendre longtemps avant de trouver la paix.
Oui. Très bien, merci beaucoup Laure Dautry. Je rappelle le titre de votre livre, Paganini, le violoniste du diable, qui vient tout juste de paraître aux éditions Talendier. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Claire Levasseur, attachée de production Annick Aumier. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Philippe Blais qui nous présentera l'imposante monographie qu'il vient de consacrer pour les éditions Fayard à Reynaldo Hahn. D'ici là, excellente journée, excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.